Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec Thierry Lopez que j'ai discuté autour de la pièce Oublie-moi, qu'il joue et met en scène aux côtés de Marie-Julie Bopp au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, avant de partir en tournée. Oublie-moi, c'est l'histoire de Jeanne et d'Arthur, un couple en apparence classique, à ceci près qu'Arthur perd peu à peu la mémoire. Une pièce qui questionne donc le rapport des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, dans une mise en scène inventive, colorée et souvent très drôle. Et avec Thierry Lopez, on a parlé de la pièce originale en anglais, dont Oublie-moi est une adaptation, de l'importance de la musique sur scène, ou encore du duo particulièrement efficace qu'il forme avec Marie-Julie Bopp. Bonne écoute! Bonjour Thierry Lopez.
Bonjour Thomas, ça va?
Ouais, ça va. Il reste encore pas mal de dates au théâtre du Petit Saint-Martin pour voir cette pièce que tu as trouvée.
Oui.
Je dis trouvée parce qu'en réalité, Oublie-moi, ça s'appelait In Other Words. C'est une pièce britannique, on l'aura compris avec cet accent, d'un certain Matthew Seeger, ouais. Que tu as donc trouvé à Londres. De quelle manière t'es tombé dessus?
Écoute, alors sur les conseils de Marianne Groves, qui était une metteur en scène avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, elle m'avait parlé d'une bibliothèque qui se trouve dans les sous-sols du Royal Court, qui est un théâtre très connu à Londres, et ils ont des pépites. Et effectivement, dans une de mes trouvailles, j'ai pris une dizaine de livres, j'ai acheté une dizaine de livres dans cette librairie et j'ai trouvé In Other Words de Matthew Seeger.
Ouais, c'était pas cette pièce qu'elle t'avait conseillée ou je
ne sais
quoi.
Pas du tout, non, je suis tombé totalement par hasard dessus.
Ok.
Je m'en suis emparé, je l'ai lu et j'ai pleuré dans l'Eurostar. Et je me suis dit, oula, si moi je ressens cette émotion... je crois que je vais devoir le porter sur scène parce que je cherchais une pièce avec du sens et quelque chose qui me transporte. Et du coup, voilà.
T'étais en recherche de spectacle, de projet en tout cas.
On l'est toujours, je crois qu'on l'est toujours comme un écrivain qui est en recherche d'inspiration dans la rue. Un acteur est toujours en recherche de futurs rôles ou de futures incarnations. Ça, moi, je le suis perpétuellement, 24 heures sur 24.
Et de manière générale, est-ce que tu as des angles, des filtres en ce moment sur tes recherches?
Alors, j'aime tout, c'est-à-dire que
c'est vraiment une espèce de coup de cœur.
Ouais, c'est-à-dire même quand je fais un constat sur mes 20 dernières années, on se rend compte que j'ai fait des choses un peu pointues et puis des grandes comédies populaires et j'adore ça, j'adore vraiment jouer à la marelle et changer de pied, quoi, vraiment. Donc, j'aime bien me faire surprendre. C'est-à-dire que j'aime bien vraiment me faire surprendre par une écriture, par un ton, par un rôle, par un univers. Voilà, si je m'ennuie, c'est mauvais signe.
Et pour revenir à cette pièce qui était donc écrite en anglais à l'origine, la première étape, ça a été de la traduire.
Exactement.
Avec quel angle tu l'as fait? Est-ce que tu as fait beaucoup de modifs déjà?
Alors. Moi, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, d'où j'arrive à lire en anglais sans problème et je sais traduire une pièce. Après, je me suis fait aider par Dominique Pia, qui est quelqu'un qui est scénariste et enfin qui a un peu plus l'habitude de manier les scripts, voilà, aussi au cinéma, donc voilà. Et donc du coup, donc j'ai fait une première version, j'ai fait une première traduction, et ensuite j'ai appelé Marie-Julie parce que j'ai tout de suite pensé à Marie-Julie Bopp.
Très bien, j'allais dire son nom de famille. Mais...
Exactement, j'ai penché tout de suite à Marie-Julie Bopp pour jouer ce personnage de Jeanne.
Ouais.
C'est une histoire d'amour entre Jeanne et Arthur. Et donc pour jouer Jeanne, j'ai pensé tout de suite à Marie-Julie Bopp. Et quand j'ai appelé Marie-Julie, elle a lu le texte, elle a beaucoup aimé. Et elle m'a dit, ok, on va le faire, mais j'aimerais bien l'adapter. J'aimerais bien ajouter quelques scènes, la rendre un peu plus moderne et tout ça. Et donc elle a fait un gros travail d'adaptation. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure de cette façon-là.
Donc, Marie-Julie Bopp, tu l'as rencontrée en 2012 dans Le songe d'une nuit d'été.
Ouais, tout à fait. Très bien renseigné.
Merci. Et c'est la première à qui tu l'as proposée? C'est la seule, en tout cas?
C'est la seule.
Ok, pour quelle raison?
Je l'avais qu'elle en tête. Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, je crois que depuis qu'on s'est rencontrés avec Marie-Julie, on a une connivence. Et sur le plateau, on a quelque chose... voilà, on partage... un fluide, quelque chose qui est indicible, mais voilà, qui est là. Et souvent on s'est dit avec Marie-Julie, tiens, ça serait bien qu'on se retrouve sur le plateau, mais on voulait vraiment trouver le texte, l'occasion. Et voilà, je pense qu'In Other Words, a été vraiment l'occasion rêvée, quoi.
En l'occurrence, bonne partenaire de théâtre, c'est ça, c'est ce fluide qu'on ne peut pas expliquer précisément, ou est-ce que tu as un peu théorisé cette notion de bon partenaire ?
Alors, c'est quelqu'un, effectivement, il y a une part de magie, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, ça se passe dans les regards, ça se passe dans le corps, ça se passe dans les silences sur le plateau. Je crois que c'est peut-être l'habitation des silences, c'est-à-dire de se comprendre sans se dire. Ça c'est vrai, mais il y a aussi quand même une grosse part de travail, c'est-à-dire je pense que c'est aussi quelqu'un avec qui on sait travailler, c'est-à-dire qu'on sait construire, qu'on sait créer, et je pense que Marie-Julie, on a des angles communs, et on sait bâtir ensemble un édifice qui nous ressemble, et dont on est fier. Et je crois qu'on a réussi ça, en tout cas on a réussi ce qu'on voulait faire, après que ça fonctionne pas c'est une autre affaire, mais on a réussi ce qu'on voulait faire, et on a construit ensemble avec beaucoup de générosité et d'écoute l'un envers l'autre.
Vous avez commencé à Avignon, hein, c'est ça ?
Nous avons commencé à Avignon, oui, au Théâtre Actuel, en juillet dernier. On l'a créé à Avignon, on flippait sa race.
Mais ça s'est bien passé. Et je crois qu'on peut désormais dire que ça s'est plutôt bien passé.
Ouais.
Pour revenir au texte, à la pièce dont il est question, dans Oublie-moi, c'est une forme précoce de la maladie d'Alzheimer.
Il y a ces
7 stades de la maladie qui nous sont montrés. On peut potentiellement dire que leur amour connaît autant de stades à Arthur et Jeanne dans l'idée. C'était un peu l'idée, en tout cas.
Ouais, c'était de raconter. Effectivement, quand on rentre dans la pièce, moi, on aime bien avoir des spectateurs qui ne savent pas trop à quoi s'attendre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on commence, il faut peut-être resituer un petit peu, le rideau s'ouvre, en fait, et on est vraiment dans une comédie romantique hyper pop.
Ouais, le décor est très monochrome.
C'est très rose, il y a la musique à fond, ça danse, ça s'embrasse. C'est vraiment, on est dans une vraie comédie romantique. Mm. Et puis, effectivement, on va annoncer ces stades, le stade 1, stade 2, stade 3, et on va rentrer dans l'histoire d'amour de Jeanne et Arthur, et en même temps on va rentrer effectivement dans les différents stades de la maladie d'Alzheimer, mais on sait pas vraiment, c'est-à-dire qu'au début c'est vraiment un code de narration, et finalement le poison de la maladie s'immisce à l'intérieur de cette narration, mais effectivement il est dans les 7 stades de la maladie, et d'ailleurs ça pourrait être quand même un angle assez intéressant de se dire que plus la maladie avance et plus ils se rencontrent. C'est-à-dire plus Jeanne et Arthur se découvrent dans la difficulté, c'est effectivement, on se rencontre ailleurs, quoi. On se rencontre différemment. Et justement, le septième stade qu'on décrit pas vraiment est peut-être le plus merveilleux parce que plus rien n'est dit, mais tout se comprend.
Et bon, là, on aura un peu compris, c'est un sujet qui, a priori, n'est pas très facile, ni pour le public, ni potentiellement pour celles et ceux qui travaillent dessus. La plus grosse erreur, ça aurait peut-être été de faire une pièce un peu trop dans le pathos, dans le tire-larme. L'idée de la comédie romantique, tout ça, ça incarne bien déjà ça. Mais est-ce que tout était déjà dans l'écriture de Matthew Seeger en anglais? Ou est-ce que vous avez... avec Marie-Julie Baube, décider d'ajouter, je sais pas, des notes d'humour,
totalement.
Parce que malgré tout, c'est une pièce où on rit aussi, en vrai.
Totalement. C'est-à-dire que, alors, dans la pièce anglaise, non, on avait une pièce qui était assez classique, un peu plus classique, disons, avec un humour anglais, qui était beaucoup moins moderne. La musique de rencontre n'était pas la même. C'était Fly Me to the Moon. Donc, on n'est pas du tout dans le même univers. Nous, effectivement, on est parti de nous, de notre génération, de nos codes, avec nos musiques de rencontre, Words de F.R. David, en l'occurrence. Et oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que très vite, on s'est dit, OK, en fait, on veut raconter cette histoire, mais on veut la raconter à notre manière. C'est-à-dire avec du fun, en étant rock, parce que c'est Arthur et Jeanne, c'est vraiment des personnages pop, enfin drôles, fun, c'est un couple d'aujourd'hui moderne,
ouais,
et on voulait
carrément
absolument incarner ça. Et oui, on a dû réécrire, et c'est Marie-Julie qui s'en est chargée, réécrire des scènes d'humour, des scènes de vie quotidienne où on ajoute beaucoup de peps et où effectivement on retrouve la déconne et l'humour des couples d'aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Et c'est très important parce que effectivement il y a toute la dimension de la maladie, mais c'est surtout une histoire solaire, c'est une histoire d'amour extraordinaire, c'est une merveilleuse histoire d'amour, et je le répète, c'est très solaire, c'est-à-dire que vraiment je pense que c'est une histoire qui fait pleurer, quoi, qui fait vraiment pleurer et rire en même temps, donc c'était très important pour nous. On ressort pas de ce spectacle, alors oui ça pleure parfois, mais on ressort
bien,
de là, mais waouh,
ouais.
Avec une envie de bouffer la vie, mais
c'est un peu
à 200%,
c'est ce que j'allais dire. Ça y est. Tu viens de parler
des travaux pour ceux qui nous écoutent.
C'est pas bien grave, écoutez. Vous avez l'habitude. On vient de parler de musique, de la chanson Words, ouais. En l'occurrence. Elle a une place très importante dans la pièce, notamment dans le lien qu'on peut faire avec la mémoire d'Arthur, le personnage que tu incarnes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette importance de la musique ? Parce qu'à mon sens, elle avait un vrai rôle.
Bien sûr. Alors, Words don't come easy. How can I find a way to make you see I love you ? Voilà, ça, c'est les premières phrases de la chanson Words de F.R. David qui disent tout en fait sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on n'a pas choisi évidemment cette musique au hasard. Et oui, la musique, elle a toujours. Alors, bon, plus personnellement, moi, la musique, elle a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai dansé. Enfin, avant d'être comédien, j'étais danseur. Donc, la musique, elle m'a formé, elle m'a sculpté, quoi. Donc, la musique, pour moi, au théâtre, elle est primordiale. Je trouve qu'on l'utilise. Enfin, on l'utilise de plus en plus aujourd'hui. Mais moi, j'adore être transporté par une musique. Et même, je parle aussi de volume. C'est-à-dire que j'aime quand on est bousculé par un volume, quand on est. Quand c'est trop fort, quand on est dérangé par un volume, tout ça, je trouve qu'on peut utiliser cette source-là au théâtre. Je trouve que c'est très intéressant. Et on a essayé de faire ça. Non, oublie-moi. C'est vrai qu'on a parfois la musique qui prend le dessus, le volume prend le dessus sur le texte, c'est-à-dire qu'on entend la musique plus fort que le texte et on perd les mots. Et ça, c'est très intéressant. Et effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, où ça a été intéressant pour nous de se mettre dans la place, dans le cerveau, dans l'esprit du malade. Et donc, du coup, dans ce chaos total, et quand on ne comprend plus les mots, quand on est totalement perdu, il y a vraiment des distorsions de son, des amplifications de son. Et on a beaucoup travaillé le son avec Maxence Van de Velde, qui a fait un travail merveilleux. Et justement, on a vraiment essayé... d'avoir une partition sonore très délicate et puissante.
Ce qu'on voit, c'est que la mémoire, c'est aussi un peu ce qui fait de nous des corps incarnés, au-delà de la musique, etc. Mais au fond, c'est aussi ça, être acteur, c'est d'incarner quelque chose grâce à la mémoire et de manière très concrète, un peu plus personnelle aussi. Est-ce que toi, tu aimes ce moment où tu dois apprendre ton texte pour le jouer ? Quel moment c'est pour toi, ce moment de l'apprentissage ? Est-ce que c'est une source de grosse angoisse ou au contraire, est-ce que c'est assez simple d'ailleurs ?
C'est pas très compliqué pour apprendre le texte. Okay. Je crois que c'est quelque chose d'assez simple. En même temps, la mémoire, c'est vrai que quand j'ai lu In Other Words de Matthew Seeger, ça m'a interpellé parce que bon, nous, on a un rapport particulier avec la mémoire, les comédiens, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, de la perdre, on a quand même... voilà, c'est assez vertigineux de se dire oulala. Et puis aussi, y a ce que j'aime dans la mémoire, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que, et souvent d'ailleurs, on en parle souvent dans la maladie d'Alzheimer, c'est que la mémoire est proportionnelle à la dimension émotive des souvenirs. C'est-à-dire que plus un souvenir est fort émotionnellement, plus il reste ancré dans notre mémoire. Ce qui nous paraît logique, finalement.
Ce qui nous paraît logique,
mais,
ouais.
Donc, même pour les malades, effectivement, d'Alzheimer, ils se raccrochent à des souvenirs très forts émotionnellement. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que sur le plateau, c'est ce qu'on va un peu chercher. C'est-à-dire que dans ce dessin qu'on entre cette histoire d'amour, il y a des rendez-vous extrêmement forts émotionnellement, très puissants. Et donc, du coup, par exemple, la rencontre qui est très forte... je vais divulguer la première scène où Arthur renverse un verre de vin intentionnellement sur le chemisier, sur le visage de Jeanne. C'est une manière de drague, ça pourrait être la mienne d'ailleurs, mais c'est une façon, voilà. Mais cette rencontre qui est très forte, elle ressurgit à un moment donné dans la pièce et sous forme d'un souvenir. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est comment on retrouve des souvenirs très forts qui ont sculpté notre vie, qui ont marqué des points de repère qui nous ont influencés, marqués, comment on les garde en soi et comment ils peuvent ressurgir par un sourire, par la puissance d'un son, d'une musique, d'une réminiscence de la musique, d'une sensation, d'un frôlement de corps, voilà, c'est tout ça en fait. Donc c'est tout ce sensible, toute cette histoire d'amour-là, et c'est très beau parce que on sème des graines et on les retrouve dans la deuxième partie de la pièce. On retrouve ces graines semées par le souvenir.
Est-ce que ça t'arrive parfois, toi, d'un souvenir, quelque chose, te rappelle un vieux texte, une vieille pièce que
ah
tu as
ouais, tout le temps.
C'est vrai ?
Ah ouais, tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Non, mais c'est-à-dire que tout le temps, je vais chez la boulangère, elle va me dire, en vous remerciant, bam, je vais avoir une réplique dans la tête et je vais... Ouais, tout le temps, tout le temps. Je voyage vraiment... Je voyage avec mes textes en permanence. Ils font partie de. Enfin, j'ai deux bras, deux jambes et 10 textes en moi, quoi. Okay. Ils font partie de. Et puis, j'ai envie de dire plus que les textes, c'est même les personnages. Hein. On est complètement. Enfin, moi, tous mes personnages sont avec moi tout le temps, en permanence. Okay. On leur dit au revoir sur le plateau, mais finalement, on les oublie jamais, quoi.
Ben, écoute, justement, bravo pour cette transition. Il y a pas si longtemps, finalement, t'as joué dans Ich bin Charlotte.
Oui.
C'était un seul en scène.
Oui.
Qui t'a valu une nomination au Molière.
Effectivement.
Et désormais, vous jouez à deux. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure au début, mais en quoi ça transforme ton énergie à toi sur un plateau de jouer à deux.
Alors écoute, déjà c'est très rassurant d'avoir quelqu'un.
Ouais, voilà, il y a les trucs dont on se doute, bien sûr. Ouais, ouais. Jouer à deux, c'est pas jouer tout seul.
C'est très rassurant d'avoir quelqu'un. Et puis, alors moi, je vais parler un peu de moi, mais je suis un acteur un peu, je pourrais dire, socratien. C'est-à-dire un peu, connais-toi toi-même, quoi.
Okay.
C'est-à-dire que ça m'intéresse. Pour moi, ce qui est intéressant dans le jeu d'acteur, c'est quand même d'aller se partir à la découverte de soi. Enfin, on se met en danger et c'est justement quand on est dans des retranchements et qu'on est dans la difficulté, finalement, on agit. On est acteur de son propre destin. Et je trouve que sur scène, on a cette liberté-là. En fait, on n'a pas le choix. On est dans une pleine conscience du plateau et on a cette liberté d'agir. Et donc d'improviser s'il se passe quelque chose d'imprévu ou même d'aller dans une émotion très forte et de se révéler, de se dire ah tiens c'est marrant, je suis capable de ça, je réagis comme ça et tout ça, ça m'intéresse. Et je trouve qu'à deux, c'est pour ça que je fais je trouve qu'à deux, bah c'est encore plus fort parce qu'on a encore plus de moyens de se laisser surprendre. Parce que seul, on connaît un peu son périmètre, on se connaît, quoi. Enfin, on essaie de se connaître.
Le champ des
possibles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que si l'autre lance une balle un peu trop forte ou un peu trop haute, bah, il faut la rattraper. Et donc, même si on ne s'y attend pas, bah, il faut être sur le coup, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est intéressant. Ouais, c'est ça.
Enfin,
et ça, c'est intéressant parce qu'à deux, on est. Enfin, et en plus, sur cette pièce où vraiment il y a une. Il y a une connivence très forte entre les deux personnages. On est vraiment, c'est un vrai duo, c'est un pas de deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, partir seul d'un côté. On est tout le temps, c'est vraiment un corps à quatre pattes, quoi. Et vraiment, on balaye le plateau tout le temps, on est collé serré. Enfin, et ça, c'est génial parce qu'on est vraiment à l'écoute de la respiration, du battement de cœur de l'autre. Et je trouve qu'on est parfois dans des retranchements et dans des positions qui ne sont pas simples. Et on ne peut être que très fier à la fin quand on réussit le défi du plateau.
Il y a un personnage qui te fait rêver en tant que comédien ?
Tous les personnages de Beckett.
Je comprends.
Ouais, tous les personnages de Beckett, je les trouve merveilleux. Estragon et Vladimir. Dans Nathaniel Godot, il y a des textes de Beckett, Nouvelles et textes pour rien, qui est un peu mon livre de chevet.
Okay.
Voilà, ça me bouleverse, ça me passionne.
T'avais fait un spectacle en 2005-2006.
Mais c'est pas possible que tu ressortes ça, écoute. Mais c'est incroyable. Et ouais, j'avais fait un.
Sur Beckett,
en fait,
pardon,
Beckett,
j'ai pas fini ma phrase,
mais... ouais, sur Beckett, sur Samuel Beckett. Samuel Beckett, en fait, ne voulait pas. Enfin, laisse très peu de la place aux femmes, hein, on le sait. Enfin, il a quelques pièces pour les femmes, mais il avait du mal à distribuer quand même les femmes. La parole était quand même essentiellement masculine. Et moi, j'ai voulu faire dire des textes, des mots de Beckett par des femmes, donc par quatre femmes. Donc, je ne jouais pas dans cette pièce. Mais effectivement, c'était un beau spectacle dont je suis très fier, avec des quatre comédiennes extraordinaires qui sont encore dans mon cœur et qui sont de très très grandes comédiennes aujourd'hui.
À quel moment la scène c'est devenu un espace familier pour toi ?
Moi, la scène, ça a commencé par la danse. C'est-à-dire que j'étais petit et j'ai fait de la danse classique et contemporaine. J'avais 6 ans, 7 ans.
Enfin,
ouais, j'en ai fait énormément. Donc pour moi, la scène, ça a commencé vraiment par le corps. Et puis j'ai passé l'audition de l'Opéra de Paris parce que j'étais en province, j'étais toulousain à l'époque et j'ai passé l'audition de l'Opéra de Paris et je l'ai raté. Et je crois que j'ai eu une grosse frustration. Enfin, c'était un de mes premiers échecs et c'est magnifique comme on apprend des échecs et ça m'a ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère et je crois... Ouais, ça m'a mis en colère parce que j'étais un enfant et que je ne comprenais pas tout et tout ça. Et en même temps, ça m'a donné... Et après, cette colère, je crois qu'elle... Bon, il n'y a pas que ça, mais du coup, j'ai eu le besoin des mots. C'est-à-dire que je savais me mouvoir sur un plateau, mais j'ai eu un besoin de texte, quoi. Et donc, assez naturellement, je suis allé vers le théâtre. J'ai fait un bac littéraire option théâtre à Aurillac, qui est la capitale... Je dis Aurillac parce que c'est la capitale du théâtre de rue et ça m'a aussi... forger le théâtre de rue.
Ah oui, en quoi?
Ben parce que c'est l'art de l'improvisation, de l'imprévu.
Mais t'en faisais?
Ouais, j'en faisais. On était partenaires. Enfin, notre lycée, le lycée Émile Duclos, big up. Donc en fait, on avait des partenaires Royal Deluxe, Cumulus, enfin des troupes de théâtre, 26 000 couverts, des troupes de théâtre de rue influentes. Et oui, moi j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre de rue. J'ai commencé comme ça. Et ensuite, un parcours plus classique. Enfin, j'ai fait des études à la fac, mais en parallèle, j'étais au cours Florent, en cours du soir.
Ouais.
Et finalement, ça a pris le pas sur mes études. Mais donc voilà, en gros, pour revenir à ta question, première étape, la danse. Ensuite, il m'a fallu. J'avais envie de dire des choses, d'hausser le ton, quoi, de faire entendre ma voix sur un plateau. Et puis après, l'amour des textes, évidemment.
Cinéma, ça t'a jamais intéressé?
Ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. J'en fais de plus en plus d'images. Je fais de plus en plus de séries. J'ai fait une série pour HBO qui s'appelle Théodosia, en anglais, justement, où je fais un. Le roi du chaos à Pep qui se transforme petit à petit en serpent. Enfin voilà, ça a été génial de faire cette aventure-là. Ça m'intéresse. Après, effectivement, mon métier
reste le
textes, théâtre.
Plus,
mais... Non, c'est pas. Mais j'aime aussi le cinéma. J'aime ce travail de puzzle, enfin ce travail de mécanique où tout se met en branle et que pour un moment ensemble est très particulier. Mais le théâtre reste quand même mes premières amours, quoi.
Tu as eu, enfin j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais tu as été nominé au Molière.
Nommé, je crois qu'on dit nommé.
En 2016 et en 2019, ouais. Quel rapport tu entretiens avec cette notion de reconnaissance? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Est-ce que dans ton choix de pièces, ça a un peu influencé?
Alors, le rapport à l'échec est plus intéressant, je trouve, que le rapport aux récompenses. C'est-à-dire que quand on... justement, je parlais de l'Opéra de Paris quand j'étais gamin et que j'ai passé l'Opéra de Paris, ça m'a encouragé à aller encore plus loin et à me connaître. Connaître,
ça t'a pas du tout brimé, quoi.
Non, pas du tout. Et je crois que le rapport au prix et tout ça... c'est en même temps une grande kermesse et en même temps une kermesse dans laquelle on prend part et où on est heureux de prendre part. C'est-à-dire que je trouve que c'est beau aussi d'avoir la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance du métier. C'est un encouragement. Donc c'est-à-dire je m'en méfie de ces prix et en même temps je les trouve merveilleux parce que c'est beau l'émotion que ça peut susciter. Donc à chaque fois que j'ai été nommé, ça a été, je trouve que ça a été un hommage aux équipes en fait avec lesquelles je travaillais et aux rôles que j'interprétais. Et ça, je trouve ça beau parce que le théâtre, c'est quand même, on parlait tout à l'heure des rôles, mais on part sur un an, deux ans, trois ans d'une rencontre avec une équipe et d'une rencontre avec un rôle. Mmh. Et un prix, c'est une façon de dire au revoir à un rôle en disant, ça a été beau quand même. Ce fut une bien belle. Un beau moment, une belle équipe et tout. Et je trouve que c'est ça. Et les nominations, que ce soit pour Avanti ou pour Ijmin Charlotte, pour moi, c'est ça. Je me dis, tiens, c'est deux moments forts, c'est deux rôles forts dans ma carrière. Et il y a eu la nomination, c'est un petit hommage à ces rôles qui sont encore en moi aujourd'hui.
Ouais. Et qui sont terminés, ce qui n'est pas le cas d'Oublie-moi, puisque vous partez en tournée à partir de janvier 2024.
Oui. Alors, tout à fait. Alors,
c'est
on
le
va
point
être
actu,
à Paris.
Là.
Ouais, ouais. Alors, point actu, on est encore à Paris pour pas mal de temps, je pense, au théâtre de la Porte Saint-Martin, au Petit Saint-Martin.
Ouais.
Donc,
qui est d'ailleurs une super pièce, je trouve, pour la,
oui.
pour la pièce.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai. La salle est. Non, le rapport,
salle
le,
la...
rapport, le rapport scène-salle est très intéressant.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, il faut venir au Petit Saint-Martin. Vraiment, on est très heureux et. Et on y est très bien. Et ensuite, effectivement, nous partirons en tournée à Nouméa, à San Francisco, et ensuite partout en France, en Belgique et en Suisse, à partir de décembre 23, et donc en France à partir de janvier 24.
voilà, partout en France.
Ce qui implique qu'à titre plus personnel, tu as moins d'actu. Enfin, tu n'as pas 1000 actus là, j'imagine.
Exactement. On est un peu... voilà. Mais en même temps, on a mis allez, 2 ans à créer ce projet avec Marie-Julie. Donc, on est très fiers, très heureux. On le porte comme un peu notre bébé, quoi. Et c'est... On est très heureux de n'avoir presque que cette actualité-là. Enfin, elle est, pour nous, on a envie de la porter haut et de la partager vraiment fort avec les gens. Et vraiment, les retours, enfin, nous, on est très émus de l'accueil du public, de l'accueil de la presse et de l'accueil du métier.
Ouais, l'accueil est assez unanime.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure, bah, j'espère pour vous, parce que vous en avez encore pour quelques temps. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités, toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Je crois que oui.
Ouais, alors, bah, théâtre, hein, obligatoire pour l'instant. Alors, je parlais tout à l'heure de Beckett et j'ai vu la semaine dernière le En attendant Godot de Alain Françon à la Scala et il faut y aller parce que c'est merveilleux. Et dans Vladimir Estragon, il y a André Marcon et Gilles Privat et ils sont magnifiques. Bouleversant. Donc voilà, moi je vraiment très très bon, très très belle interprétation. Ensuite, je suis quand même obligé de parler de Valérie Le Sors et Christian Eck avec lesquels j'ai joué Gulliver l'an passé. Voilà, donc et ils reprennent 20 milieux sous les mers à la Porte Saint-Martin et ça va être un merveilleux spectacle. Il faut y aller. Et c'est ça. à partir de fin mai.
Okay.
Donc voilà, moi je l'ai. C'est un spectacle qui s'est déjà joué à la Comédie Française, mais là il sort des murs de la Comédie Française pour aller au théâtre de la Porte Saint-Martin et ça va être un merveilleux succès, j'en suis sûr. Et puis pour finir, parce que quand même j'aime bien l'art contemporain, il y a une galerie que j'adore qui s'appelle la Galerie Perrotin, que vous connaissez tous, j'imagine. Vraiment, il faut aller dans les galeries parce que c'est un moment à soi, c'est un moment privilégié où on découvre des artistes étonnants, on prend un petit café dans des super jolis jardins et aller dans la galerie Perrotin, voilà, dans le Marais qui est merveilleuse. Et en ce moment, ils ont d'ailleurs un artiste qui s'appelle Susumu Kamijo et qui est un artiste japonais qui vit en ce moment qui vit à Londres aujourd'hui. Okay. Et il a une influence à la Bacon et il fait des choses extraordinaires. Faut y aller.
Trop bien. Merci beaucoup, Thierry.
Avec plaisir.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de La Quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.